Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, toujours plus de 400 films en attente et des salles qui pourraient rouvrir à la mi-mai, telle est la situation. Heureusement qu'il y a quelques nouveautés en VOD ou sur les plateformes de streaming et c'est ce dont on va vous parler. Bonjour Guillaume, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour.
Alors toi Guillaume, tu as lorgné du côté de la VOD.
C'est ça, je vais vous parler de Godzilla vs Kong d'Adam Wingard.
Et putain Manu, c'est pareil.
Pareil, je vais vous parler de Becky, excellent petit thriller horrifique.
Quant à Marine, elle est allée du côté de Netflix pour Love and Monster, film qui était promis aux salles mais qui n'a pas pu finalement sortir. Et puis quant à moi, eh bien, je vous parlerai d'une mission martienne qui se déroule plutôt mal, Passager numéro 4 de Joey Pena. Ça c'est un film Netflix et ça nous donnera l'occasion eh bien, de jouer un blind test spécial survival à double titre hein, d'ailleurs parce que ton film c'est un survival horrifique et moi c'est un survival qui se déroule plutôt dans l'espace, ce qui n'est pas du tout la même atmosphère.
Et moi il faut survivre pour atteindre la fin du film.
Eh bien justement, on va commencer par ce gros morceau. Tandis que l'humanité lutte pour préserver sa condition, Godzilla à King Kong se livre une bataille sans précédent. C'était un film qui aurait pu sortir au mois de mai, mais il a été sorti avec précipitation en VOD et on vous en parle.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
On n'a pas le choix.
Cette semaine, donc, il est question d'une rencontre entre deux challengers, d'un duel au sommet, d'un choc des titans. Encore. Et oui, car pour les spectateurs ayant un peu de bouteille, Godzilla vs Kong a déjà eu l'honneur d'utiliser le grand écran comme ring. C'était en 1962, c'était devant la caméra du papa du premier Godzilla japonais, Ichiro Honda, et ça s'appelait King Kong contre Godzilla. On peut déjà noter un fait assez amusant. Dans le titre du film d'origine japonaise, c'est le monstre de nationalité américaine qui passe en premier, tandis que dans le film d'origine américaine, c'est le monstre de nationalité japonaise qui a les honneurs d'ouvrir le bal. Bon, on est loin d'un conflit d'égo entre Belmondo et Delon pour l'ordre de placement de leur nom sur l'affiche de Borsalino, mais cela est quand même assez révélateur des motivations des producteurs. Car si on a droit à un Godzilla vs Kong, c'est bel et bien parce que ce film s'inscrit dans la continuité de ce qui a été nommé le Monsterverse, une franchise basée sur les grosses bestioles produites par Legendary et Warner et initiée en 2014 avec le Godzilla de Gareth Edwards. On y trouve principalement une récupération du bestiaire de la Toho et donc de certains des plus emblématiques kaiju, donc monstres, ayant croisé le chemin de Godzilla depuis 1954. Mais un Américain, et pas des moindres, va venir montrer le bout de son nez en 2017. C'est bien sûr le roi Kong dans Kong Skull Island de Jordan Vogue Roberts. L'affrontement, à nouveau, donc, était donc inévitable, mais cela était-il suffisant pour en faire un film ? Alors si la cible est, et c'est un pléonasme quelque peu manqué, il ne faut pas en fait aller chercher bien loin, hein, puisque le programme de cette déception quasiment annoncée était naturellement inclus dans ses gènes.
On a besoin de Kong. Le monde en a besoin. Pour empêcher ce qui se prépare. Et cette fillette est la seule avec qui il accepte de communiquer.
Je savais qu'ils étaient proches. Elle était seule au monde, alors j'ai promis de la protéger. Et je crois qu'à sa façon, Kong a fait la même chose.
Godzilla vs Kong est la victime d'un traitement bancal qui remonte aux origines donc de ce Monsterverse lancé en 2014. Le Godzilla de Gareth Edwards était un film indigent, incapable de rendre honneur au mythe réadapté sous la bannière étoilée et se vautrait dans un sérieux faussement théâtral, prétentieux et hautain. Même si le film a marché, les studios ont pris bonne note de ce départ en demi-teinte et vont rectifier de manière spectaculaire le tir avec Kong Skull Island 3 ans plus tard. Alors qu'on ne l'attendait pas, ce dernier se révèle exemplaire dans son traitement tant il a compris l'héritage pulp du chef-d'œuvre King Kong de Marianne C. Cooper et Ernest B. Shostak et se permet même de ressusciter un esprit d'aventure naïf à la Stephen Sommers que l'on pensait mort et enterré à l'époque mortifère des héros fachos de Zack Snyder et des vengeurs dépressifs de Christopher Nolan. Logiquement, le film suivant, Godzilla 2, Roi des monstres, sera impacté et redonnera des couleurs à Godzilla en 2019. Il va affronter des titans avec un scénario partant quelque peu dans tous les sens, mais ayant le mérite de laisser au doué Michael Dougherty s'amuser avec ses jouets, avec l'envie de nous en foutre plein la gueule en IMAX. Nous étions donc relativement bien conditionnés pour le fameux Godzilla vs Kong, même si, puisque Godzilla a été couronné roi des monstres, King Kong n'est plus que Kong. Hélas, la pandémie n'aura fait que repousser un mauvais film de studio de plus.
Godzilla s'en prend à tout le monde et on ignore pourquoi.
Quelque chose le provoque, mais on ne sait pas ce que c'est.
Je pense la même chose.
Les légendes sont réelles. Il y a eu une guerre. Et ils sont les derniers survivants.
Un mauvais film de studio, mais dont le mauvais traitement est concentré derrière un réalisateur problématique. Si Adam Wingard s'est fait connaître pour le film d'horreur Your Next en 2012, c'est plus pour son amusant scénario qui massacrait allègrement ses personnages que pour sa mise en scène horrible, tout le temps en mouvement, à l'épaule et sans aucune notion de cadrage fort. Cette non-maîtrise sera confirmée par la suite reboot du projet Blair Witch en 2016, qui était proprement catastrophique. Il était donc étonnant de le retrouver à l'affiche d'un si gros film, mais c'est oublier la volonté des studios d'engager des hommes de paille et non des auteurs pour livrer, non pas un film, mais un produit. Après s'être recherché, le Monsterverse a malheureusement livré un épisode informe et sans valeur, qui n'est pas spectaculaire pour un sou dans sa mise en scène, mais aussi dans ses enjeux. Il y a bien une tentative pulp de marcher aussi sur les terres de Jules Verne avec un monde au centre de la Terre, mais c'est malheureusement couplé à une volonté un peu ridicule de rationaliser coûte que coûte l'existence de tous ces monstres en même temps. Ça fait penser, en moins bien, à l'excellent, mais malheureusement oublié manga Le Trou Bleu de Yukinobu Oshino, paru dans les années 90 chez Casterman et où il était question d'un passage au fond de la mer qui fait déboucher sur un monde d'il y a 65 millions d'années. Des personnages humains y étaient mieux traités, même s'ils étaient en grande partie au menu de divers dinosaures, et les créatures y étaient, elles, majestueuses. On vous invite donc plus à tenter ou retenter l'expérience du faux film originel d'Ishiro Honda, qui reste un fort beau grand spectacle, un peu kitsch, mais dans le sens le plus noble du terme, ou, si les grosses bêtes vous intéressent, de vous replonger dans les excellents livres de Fabien Moreau, spécialiste des Kaiju Eiga, ou du regretté Michel Lebris, auteur d'un ouvrage de référence absolue sur Kong, intitulé « Kong ».
Non, je t'ai plu, donc si vous voulez avoir bien la liste des incohérences, il me semble avoir lu ça dans un article du Point dans la section pop culture. Voilà, vous pouvez vous y référer. On passe des grands monstres à des monstres visiblement un peu plus petits. En tout cas, c'est un jeune homme qui tente de survivre dans un monde post-apocalyptique envahi par des monstres. C'est Love and Monster et c'est un film Netflix dont nous parle Marie.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Le jour le plus bouleversant de ma vie a été le jour où j'ai perdu tout le monde. Seule une infime partie de l'humanité a survécu et s'est installée sous terre. Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de rechercher Aimée. Et j'ai enfin réussi à la retrouver.
Joël est un jeune homme qui vit reclus dans un bunker depuis de longues années, après que la Terre ait été quasiment vidée de ses habitants. La faute à de légers effets secondaires de frappe nucléaire, comme cela arrive de temps à autre. Résultat, la faune terrestre a muté, peuplant le monde de monstres gigantesques qui, de façon assez logique, se nourrissent de créatures plus petites, c'est-à-dire nous autres, les humains. Joël, alors adolescent au moment de l'invasion des monstres, s'est vu privé de sa famille qui a été décimée par des ornithorynques géants ou du moins ce qui s'en rapproche, et il a été séparé de sa petite amie qu'il s'est juré de retrouver. Car à présent, les survivants se sont rassemblés en colonies, cachés dans des abris, évitant à tout prix de se confronter aux monstres affamés qui errent à l'extérieur. Joël décide de quitter son bunker pour partir à la recherche de son amoureuse. Petite précision, Joël n'est pas vraiment un combattant chevronné, c'est même plutôt un jeune homme assez trouillard qui va devoir affronter ses peurs au cours de sa quête.
Joël ?
Hey !
Joël !
Aimée, est-ce que c'est toi ?
J'en reviens pas !
Hey !
Est-ce que la colonie d'Aimée est loin ?
À environ 135 km.
C'est dangereux, c'est trop loin.
Tout ce qui bouge voudra te tuer. De ma part, tu cours et tu te caches.
Réalisé par Michael Matthews, produit par les producteurs de Stranger Things et interprété par Dylan O'Brien, star des adolescents après quelques teen movies comme Le Labyrinthe ou encore Teen Wolf, Love and Monster ne prétend pas être autre chose qu'un solide divertissement et y arrive plutôt bien. Bien que le film fasse énormément penser à Bienvenue à Zombieland, hein, dystopie comique dans laquelle Emma Stone et Woody Harrelson éliminaient les zombies au fusil à pompe, Love and Monsters, à défaut d'être original, se contente de nous divertir et on se laisse aller avec un enthousiasme certain. Le grand charme du film, c'est de ne pas se prendre sérieux en mettant notamment en scène un héros à contre-courant des représentations habituelles de la masculinité. Ici, Joël est loin d'être valeureux, pas trop débrouillard et surtout désespérément romantique. La seconde bonne idée de ce blockbuster privé de salles et récupéré par Netflix, c'est de le faire évoluer dans un univers assez bien pensé qui laisse la part belle à la nature, plein de créatures surdimensionnées.
C'est un sabre de samouraï ?
Ouais, c'en est un.
Tu dois toujours écouter ton instinct, compris ?
Qu'est-ce que je fais si mon instinct est mauvais ?
Tu meurs.
Love and Monsters est absolument pétri d'allusions au cinéma d'aventure des années 80 et 90. Le nom de famille du héros est d'ailleurs Dawson, hein, comme la série. Il nous offre un univers assez réjouissant et parfois de jolies scènes plutôt poétiques, sans tomber dans le message écolo New Age vers lequel le film aurait pu tendre. Si vous avez été biberonné au cinéma d'aventure de la fin du siècle dernier, vous trouverez sans doute cet hommage un peu palo. Mais si, comme moi, vous n'avez pas en tête l'intégralité des très nombreuses références du film, eh bien vous regarderez sans déplaisir et même avec une certaine joie ce bon divertissement assez généreux dans sa forme.
C'est incroyable. J'ai l'impression d'être Tom Cruise.
Nous allons maintenant pouvoir jouer à un blind test spécial survival ou film de survie. Et pour ça, il y a deux films. Alors, il y a le tien, Manu, Becky. Et puis, on va commencer avec un film un peu plus léger. C'est une mission martienne avec un passager clandestin. C'est Passager numéro 4 de Joey Pena.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Asseyez-vous.
On a décollé.
Asseyez-vous.
C'est pas vrai, non.
Vous allez vous évanouir.
Qu'est-ce que je fais là?
Commandant.
Est-ce qu'on a décollé?
Commandant.
Le survival dans la science-fiction est un sous-genre qui a la faveur régulière des écrans. L'un des plus célèbres serait sans doute Alien, avec une vilaine bestiole qui veut vous faire la peau. Le suspense est intense, on tend vers l'horrifique. Et si on prend Gravity, un autre survival de science-fiction, eh bien, il n'est plus question d'intrus qui veut vous faire la peau. Mais quand Houston ne répond plus et que la navette est détruite, eh bien, il faut se décarcasser pour retourner sur Terre en entier. Rien de facile. Alors pour Passager numéro 4, en version originale, c'est Stowaway, soit passager clandestin, eh bien Joe Pena ne prend ni le vilain alien ni la grosse avarie pour nous emmener dans une aventure spatiale. Cette aventure eh bien, se déroule dans un futur proche et nous mène vers Mars avec trois cosmonautes, la commandante Marina Barnett, la docteure Zoe Levenson et le biologiste David Kim. Mais ils devront malheureusement faire face à une rencontre inattendue. À l'intérieur de leur vaisseau se trouve un passager clandestin qui n'a pas demandé à être là. Il s'agit en fait d'un ingénieur au sol qui préparait la navette et qui a été blessé et puis s'est évanoui. Le scénario était nu, mais pourquoi pas.
Enchantée, Michael, je suis Marina Barnett. C'est moi qui commande le vaisseau MTS. Vous vous rappelez ce qui s'est passé sur le pas de tir?
Je suis ingénieur support au sol, commandant. Je suis resté évanoui longtemps?
Ça fait 12 heures qu'on a décollé.
Comment ça, 12 heures?
Je dois vraiment y aller, ma sœur, m'attend. Ma sœur est toute seule à la maison, je dois absolument aller m'occuper d'elle.
Mais on ne peut pas faire demi-tour.
On peut pas faire demi-tour? Mais elle dure 2 ans, votre mission.
2 ans, ça va être très long. Mais une occasion comme celle-là ne passe qu'une fois dans une carrière. J'apprends très vite.
Prêt.
Une fois que l'on aura admis ce passager clandestin, balancé dans l'espace malgré lui, le réalisateur brésilien ne va jamais chercher le spectaculaire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la mise en scène ne va nous faire croire que l'intrus va prendre possession de la capsule spatiale pour la projeter sur le Capitole. Et je parle de celui de Toulouse, évidemment. Non, la capsule spatiale ne peut pas retourner sur Terre. Elle suit une trajectoire et le retour vers la planète bleue ne se fera que 2 ans après. Joe Pena nous emmène dans un thriller psychologique qui va naître d'une difficulté. Il n'y a pas assez d'oxygène pour tout le monde. Le voyage était prévu pour 3 dans une navette, bon, d'abord prévu pour 2. Et il y a un problème sur le filtre de CO2. Mais heureusement, grâce aux plantes et algues embarquées pour réaliser des tests sur Mars, eh bien, l'équipage a une petite chance. Mais les choses ne vont pas toujours comme on veut.
C'est pas évident de dire ça. Malheureusement, l'épurateur de CO2 n'est pas réparable. Il nous reste assez d'oxygène à bord pour 3 personnes.
On mourra tous asphyxiés bien avant d'arriver sur Mars.
L'équipage va donc devoir chercher une solution et si elle n'en trouve pas, eh bien se séparer de quelqu'un. Le mieux est quand même de proposer le saut dans le vide à celui qui ne s'est jamais entraîné pour une telle mission, ni physiquement ni psychologiquement. C'est là où le clandestin du titre original prend tout son sens et sert la métaphore. Hein, tout ingénieur qu'il est, il ne fait pas partie de la caste qui a le droit de partir pour l'espace. On envisage la situation des migrants dans le monde et on se frotte au déterminisme social. Le réalisateur nous emmène sur le chemin d'une résolution qui concernera autant les solutions techniques que philosophique. Le passager numéro 4 avance dans une veine humaniste qui pourra sans doute en rebuter certains. Pourtant, la mise en scène est avantageuse car elle ne prend pas parti. De même, le film est en tout point remarquable quand il nous fait prendre part au décollage avec les hauts le cœur d'un des cosmonautes que lorsqu'il est question de mettre en place le système permettant d'obtenir la pesanteur ou d'aller réaliser une réparation dans l'espace. Alors, on n'est pas dans la science-fiction hollywoodienne qui nous fait perdre tous nos repères à force de privilégier l'action, mais dans une vision réaliste presque scientifique, qui est un voyage tout aussi intéressant. Hein. La mise en scène vient appuyer la solitude de ces êtres partis pour 2 ans et qui emmènent avec eux l'humanité. Un petit hublot nous laisse entrevoir la Terre, comme elle est bleue, puis comme elle est lumineuse et comme elle n'est finalement qu'un point. Les liaisons avec la Terre ne sont entendues que par la commandante qui garde son casque. Et dans les survival de science-fiction, quand tout est fichu, c'est l'occasion souvent de faire ressortir les pires travers de l'humanité. Joe Pena prend le contre-pied de cette habitude scénaristique. Et si on a pris goût au rebondissement, à la cruauté, aux explosions, à la douleur, aux cris, aux larmes, on pourra sans doute être ennuyé par ce voyage plus introspectif sur ce qui fait un individu au milieu des autres et qui pose la question de l'acceptation d'autrui au travers d'une histoire de conquête spatiale pas tout à fait innocente, puisqu'elle nous emmène sur Mars, qui est un territoire encore inexploré par l'humanité. Passager numéro 4 de Joe Pena est diffusé sur la plateforme Netflix. Ça nous donne l'occasion donc de jouer à un blind test maintenant. 5 extraits de films à écouter.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Donc il va falloir trouver 5 titres de films de survival ou films de survie, qui est un genre cinématographique dans lequel, on le précise, un ou plusieurs personnages font des efforts physiques pour survivre.
Ça en fait des films.
Ça en fait. D'ailleurs, j'ai failli resserrer au survival dans l'espace. Dans l'espace. Et après quoi. Mais finalement, j'ai étendu ça, mais au film, alors après 2000, voilà, si ça peut vous aider. Et je pense qu'il y a quand même des choses extrêmement faciles.
Après 2000.
Oui, après 2000. Et on a l'habitude de commencer ces blind tests avec du très, très facile. C'est parti.
Bon, on va calculer un peu. Notre mission en surface était censée durer 31 sols. Par sécurité, ils ont envoyé 68 sols de vivres et c'était pour 6 personnes. En ne comptant que moi, j'ai de quoi tenir 300 sols que je dois pouvoir allonger à 400 en me rationnant. Donc, il faut que je trouve le moyen de cultiver assez de nourriture pour 3 ans. Sur une planète où rien ne pousse. Par chance, je suis botaniste. Mars finira par avoir peur de mes pouvoirs de botaniste.
C'est trouvé, Guillaume.
Oui, c'est Seul sur Mars de Ridley Scott.
Eh oui, film de 2015, The Martian, en version originale, en revanche. C'est tiré du roman de science-fiction du même nom de l'auteur américain Andy Weir. Et c'est avec Matt Damon que nous entendions et Jessica Chastain lors d'une expédition sur Mars. L'astronaute Mark Watney est laissé pour mort par ses coéquipiers. Une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter la Terre. C'est un film qui dure quasiment 2h20. À noter que c'était Drew Goddard, celui de Cloverfield et de La cabane dans les bois, qui était d'abord pressenti pour faire le film, et puis finalement c'est Ridley Scott qui s'en est emparé. 2,5 millions d'entrées en France. Deuxième extrait qui devrait être aussi facile, il faut trouver donc un film survival.
Je faisais la descente du Blue John hier et tout à coup, cette roche encastrée est partie et m'a roulé sur le bras et maintenant, il est coincé. Le pouce est d'une couleur entre le gris et le bleu. Ouais. Il a plus de circulation depuis 24 heures. Alors, je crois qu'il est perdu, ce doigt-là. J'ai presque rien à manger. Et dans cette bouteille, il reste peut-être 300-400 millilitres. Et ce sera tout comme moi.
Et voilà, on a le topo, c'est trouvé.
C'est 127 heures.
Oui, film de Danny Boyle de 2010 avec James Franco, dont on entend la voix française ici. Le film revient sur l'histoire vraie de l'alpiniste américain Aaron Ralston, 27 ans, victime d'un accident lors d'une randonnée en avril 2003 dans le Blue John Canyon du parc national des Canyonlands en Utah. Et l'homme se retrouve piégé par un bloc de rocher qui lui écrase un bras, c'est ce qu'on entendait là. 350 000 entrées en France pour un Danny Boyle, finalement, c'était peut-être pas un très bon score. Allez, un nouvel extrait. Il faut trouver donc un film de survie.
Je ne mens pas. On était tous que des chauffeurs.
Chauffeurs de quoi ?
De camions, tu vois, les camions sur les routes qui transportent du matériel. C'est moi, c'est nous, c'est tout. Je suis pas soldat, juste un chauffeur.
5 millions d'argent.
Quoi ?
5 millions d'argent ce soir, 9h, où tu dois rester enterré comme un chien.
Qui va me donner 5 millions de dollars ?
Ta famille.
Ma famille n'a pas 5 millions de dollars. Si elle les avait, je serais jamais venu ici.
Alors, ambassade.
J'en sais rien. Oui, oui. Pardon, ambassade. Oui, laissez-moi sortir et vous donnons les 5 millions. Ouais.
C'est mal engagé. Alors, je vais donner des indices. Alors, c'est un film qui se passe dans un espace vraiment très réduit. Et ça, c'est bon, c'est la prouesse de la mise en scène.
Ah, c'est...
Oui. C'est ça, Buried.
De Rodrigo Cortez.
Oui, film sorti en 2010. Le film met en scène Ryan Reynolds dans le rôle de Paul Conrad, un chauffeur de camion américain basé en Irak qui se réveille enterré vivant dans une caisse en bois. Voilà, et il a uniquement son portable. Ça fait 226 000 entrées en France, ce film donc de 2010.
C'est dommage parce que c'est, pour le coup, on ne pense pas du tout à un film de cinéma, entre guillemets, vu qu'on reste dans une boîte pendant une heure et demie. Mais le réalisateur, il déploie des trésors d'intelligence, je pense, de mise en scène pour faire bouger justement la caméra et les perspectives.
Il y a un autre film qui me vient en tête, c'est j'ai oublié le titre, le film qui se passe dans un tank, film israélien aussi, qui était assez remarquable.
Un film américain qui s'appelle La Bête de Guerre. C'est pas celui-là ?
De Kevin Reynolds ?
Non, Kevin Reynolds.
Non, moi je cherchais un film israélien. Bon, il nous manque pas mal d'éléments. On va continuer le blind test. Quatrième extrait.
Regarde, regarde ce que j'ai trouvé. Il y a un énorme cratère au bout du chemin. Apparemment, des gens l'utilisent comme décharge. Je sais pas, en tout cas, j'avais encore jamais vu ça.
Mais qu'est-ce qu'on fait ?
Regarde ce machin, c'est tout neuf.
Qu'est-ce qu'on fait d'une canne à pêche dans le désert ? T'étais parti chercher de l'aide.
Cette route se termine en cul-de-sac à 10 km d'ici, dans le cratère. C'est pas un raccourci, c'est un cul-de-sac.
C'est un cul-de-sac.
Exact.
Je savais que ce vieux disait que des conneries.
J'espère que ton père aura plus de chance.
On a peut-être raté une bifurcation. Bien.
Vous avez préparé quelque chose ? Je meurs de faim.
Oui, entre.
Ah, génial, merci. Brenda ?
Ouais ?
T'as ton cycle pour les lèvres, elle est bien ton taux desséché.
Alors, je pensais que vous trouveriez. Alors, ce n'est pas un raccourci, c'est un cul-de-sac. Ça, c'est un gros indice. Et le vieux monsieur dont elle parle, c'est un pompiste.
Et comme dans beaucoup de films d'horreur. Hein.
Et nous sommes dans le désert. C'est un remake, puisque là, j'ai sorti...
C'est la colline à des yeux.
Oui, film de 2006, réalisé par Alexandre Aja, donc remake du film du même nom de Wes Craven, réalisé en 1977. Big Buck Carter, un ancien policier, et sa femme ont demandé à leur famille de partir avec eux en Californie dans une caravane. Personne n'est ravi d'être là, et guidé par l'étrange gardien d'une station-service qui promet un raccourci, eh bien, ils se retrouvent chassés par des mutants cannibales. Voilà. 107 minutes, 108 minutes en version non censurée. 502 000 entrée en France. Je crois qu'il a été bien aidé par les festivals. Et donc, on aurait pu même dire qu'il appartenait aussi au genre des slashers. Dernier extrait de ce blind test consacré au film de survie.
Ces machines, ces tripodes qu'ils ont, ils les avaient enterrés. Juste là, sous nos pieds. Depuis bien avant qu'il y ait des hommes sur Terre. Ils avaient projeté ça depuis des millions d'années. On est battu à plat de couture. Je vous en prie, ma fille, réfléchissez. Ils ont vaincu la plus grande puissance du monde en quelques jours. Ils nous ont anéantis. Et c'est juste les premiers dont ils vont venir. C'est pas une guerre, pas plus qu'il y a de guerre entre les hommes et les vers de terre. C'est une extermination.
J'adore cet extrait, j'adore ce film, c'est trouvé.
C'est La guerre des mondes de Steven Spielberg.
Et oui, film sorti en 2005. une des quatre adaptations cinématographiques du roman homonyme de H.G. Wells. Ray Ferrier, docker divorcé, interprété par Tom Cruise. C'est lui qu'on voit. Sa femme lui confie pour quelques jours la charge de ses enfants, mais quelques minutes après, vient une tempête désactivant tous les véhicules, s'abat sur eux et des engins mécaniques surgissent du sol. C'est la guerre des mondes. 3,9 millions d'entrées. Genre, j'ai lu ça, il a été élu 8e meilleur film de la décennie 2009 par les Cahiers du cinéma.
C'est un chef-d'œuvre. Et je comprends le classement dans les 10 plus grands films de la décennie parce que je pense que c'est peut-être le meilleur film qui parle du traumatisme du 11 septembre de manière générale et puis de l'extermination avec un grand E, on va dire, sujet que Spielberg a déjà traité avec la liste de Schindler. Et d'ailleurs, le traitement de ces gens qui se transforment en nuages de poussière n'est pas forcément très éloigné, bien évidemment.
Ouais. Et puis en plus, mise en scène remarquable avec des décors somptueux. Enfin voilà, tout y était. Il y avait quand même beaucoup d'argent. On va maintenant eh bien, t'écouter, Manu. Tu vas nous parler d'un survival horrifique. Voilà, c'est Becky. Une famille recomposée, prise en otage par un groupe de prisonniers évadés, emmenés par le cruel néo-nazi Dominique, qui recherche un talisman. Voilà, ça donne envie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Que s'est-il passé près de ta cabane ?
Becky est une jeune adolescente de 13 ans qui a récemment perdu sa mère emportée par le cancer. Les relations avec son père, Jeff, sont assez tendues. Une rage intérieure qui ne demande qu'à exploser l'habite qui finalement tombe à pic vu la suite du film. Lors d'un séjour dans leur maison de campagne en plein cœur d'une forêt, Jeff annonce à sa fille, en présence de sa nouvelle compagne Kayla et de son fils, qu'ils ont l'intention de se marier. Alors, furieuse, Becky quitte le domicile et part s'isoler avec son chien dans une petite cabane. Alors, pile au moment où quatre fugitifs se réfugient dans la demeure et prennent en otage cette famille recomposée. Alors, très vite au courant de la situation, Becky prend les choses en main. Au lieu de subir la situation, elle décide de passer à l'action. C'est même l'occasion rêvée de laisser éclater sa colère, de décompenser en s'en prenant physiquement à ces figures quasi symboliques du mal. Alors, elle devient, talkie-walkie à la main, une sorte de John McClane, de Die Hard, juvénile, déstabilisant peu à peu ses adversaires pour le plus grand plaisir du spectateur. Alors, le scénario, très malin et brillamment écrit, notamment dans la caractérisation des personnages, nuançant même l'un des taulards, le nasillon tatoué de croix gammée un peu partout sur le corps, dissémine malicieusement tout un jeu de références qui ne parasite jamais l'évolution d'un récit constamment prenant. Outre Die Hard, cité plus haut, les scénaristes s'inspirent aussi de certains Rap and Revenge, comme La dernière maison sur la gauche ou I Spit on Your Grave. Alors, le rap en moins, quoi, le viol en moins, évidemment, mais la vengeance décuplée une fois la disparition d'un personnage phare. Alors, un hommage plus surprenant est rendu à Frankenstein de James Whale à travers le personnage d'un des tueurs interprété par un lutteur canadien, Robert Mayet, qui ressemble étrangement au monstre imaginé par Mary Shelley. Alors, légèrement simplet, cette imposante masse physique au faciès particulier est le seul des taulards en fuite à faire preuve d'empathie, la seule bonne âme à ne plus vouloir être complice des délires d'un chef, membre des fraternités aryenne. Alors Kayla et son fils étant noirs, la tension s'en trouve d'ailleurs particulièrement décuplée.
Il était une fois une petite fille. Quand elle était gentille, elle était très gentille.
Tu es vraiment une fille spéciale.
Mais quand elle était méchante, elle était affreuse. Ah,
attention, âme sensible, s'abstenir. Très rapidement, Becky se déchaîne dans une violence graphique sidérante, multipliant les effets gore croquignolais. Alors, on peut citer notamment une séquence d'énucléation particulièrement éprouvante, heureusement non dénuée d'ironie. Alors, troisième long métrage du duo Carrie Murnion et Jonathan Mio, après Cooties, une comédie horrifique avec Elijah Wood, et Bushwick, un thriller militaire, Becky s'avère sans doute le meilleur film d'horreur vu depuis des lustres, méchant et drôle, prenant et frontal. L'humour ne fonctionne jamais au second degré, mais carbure justement à un premier degré direct et fort bienvenu. Ce Home Invasion, qu'on pourrait dire un dérivé, on va dire, du survival, déroule des trésors d'invention sans le moindre temps mort. La mise en scène d'une efficacité redoutable ne s'égare jamais, reste constamment à la merci de son histoire. Alors, tout au plus, parce que le film n'est parfait, on peut regretter l'emploi d'une bande-son un peu envahissante et un découpage filmique trop sec, limite hystérique, nuisant à la lisibilité de certaines scènes d'action.
Alors, des menus défauts hein, compensés par une modestie alliée à une vraie générosité. Bah, pour ce petit film d'horreur, diablement jouissif, qui bénéficie aussi et surtout d'une interprétation remarquable. La jeune Lulu Wilson, déjà aperçue dans Ouija, l'origine du mal de Mike Flanagan, hein, en tête. Alors, affublée d'un bonnet avec des oreilles de lapin, elle porte le film sur ses épaules, devenant une sorte d'action girl badass juvénile au regard bien vénère. Elle assure tellement qu'on souhaiterait la retrouver dans une nouvelle aventure où elle s'en prendrait au hasard à des mormons pédophiles leur arrachant les testicules avec les dents. Un joyeux programme en perspective.
Becky, c'est un film disponible actuellement sur certaines plateformes VOD.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
Pour la semaine prochaine, tout n'est pas calé, mais on a quelques idées, messieurs.
Oui, un DVD Blu-ray, un combo, hein, Apocalypse 2024 de LK Jones.
Et puis toi, Guillaume ?
Moi, mon cœur balance entre le dernier Balaguero, A Way Down, et le dernier Paul Anderson, Monster Hunter.